Je suis dépourvu de profondeur, se confiait-il à lui-même. Se remémorant la nouvelle de Patrick Suskin sur cette même défaillance, reprochée un jour par un critique à une dessinatrice de Stuttgart. Face à cette remarque, elle perd peu à peu tous ses moyens et plonge dans un désespoir tel qu'elle finit par se suicider. Invité à évoquer la fin atroce de l'artiste, le critique écrit que ses premières œuvres témoignaient de cette fatale, cette, disons-le, implacable exigence de profondeur. Ce mot, le poids d'un mot, le mot qui tue. Comme troublé d'être sincère et peut-être profond, Fabrice tourna ses pensées vers une autre œuvre, un dessin de Sempé, où une femme parle à une amie de son mari que l'on voit s'asperger d'eau, tout joyeux, au jardin. Il est simple, net, limpide, content de tout. Pas la moindre zone d'ombre chez lui. C'est même ce qui m'agace. J'ai essayé de le lui faire comprendre il y a quelque temps. Tu sais ce qui te manque, tu sais ce qu'il te faudrait. Une zone d'ombre. Et il m'a regardé avec ses yeux clairs et transparents et il a dit « Ah bon ?» Et il est allé sous un parasol. C'était tout lui. Fabrice avait rencontré son lot de gens célèbres, importants même. Il n'aurait guère été capable de rapporter une conversation dépassant les banalités d'usage. Sa plus grande honte, car il était conscient que ce n'était pas très glorieux, avait les traits du professeur de 18 leçons sur la société industrielle, dont il découpait les articles du Figaro en 1968 pour les contester, n'allant pas jusqu'à trouver le temps de les lire, leur préférant d'interminables traversées dans Paris. Le maigre souvenir qu'il gardait de ce mandarin remontait au temps où, à la radio, il travaillait le week-end. Il croisait l'auguste maître, venu éditorialiser le dimanche matin, et le saluait d'un bonjour Raymond, qui n'était pas même irrespectueux. Pensant à tous ceux qui racontent et font imprimer les rencontres qui leur ont été marquantes, il était consterné de lui-même. Il se dit un jour comme une révélation qu'il était, certes sympathique, intelligent peut-être, cultivé sans doute, mais inconsistant, toujours. Ses qualités ne servaient pas, ou plus exactement ne faisaient que confirmer son impuissance à pousser les portes de celles et ceux qu'il rencontrait. Il se contentait de relations de façade. « Je suis passé, plaisantait-il pour lui seul, d'un héros d'enfance, Kit Carson, qu'il prononçait comme charbon, sur son cheval Apache, à un anti-héros comme Raymond Aron, à cheval sur les principes. » C'est ce personnage insouciant, superficiel, innocent, que Fabrice s'ingéniait à afficher. De ses interviews de Jacques Chirac, il ne pouvait raconter que les remarques de son hôte sur la nécessité d'aller pisser avant une prise de parole. Il était passé maître en insignifiance. Il n'y avait guère que François Mitterrand dont il eut des souvenirs profonds. Ayant eu à l'interviewer longuement à la radio avant son élection à l'Élysée, il avait été frappé par la qualité littéraire des propos du dirigeant socialiste qui, au détour d'une question, lui avait déclaré très naturellement « De toute façon, vous savez, quels que soient les lieux et quels que soient les murs autour de soi, on n'a qu'une prison et on n'a qu'une liberté, c'est celle qui est au-dedans de soi-même, et ce qui en ressort à l'extérieur n'est jamais que l'expression d'une vérité personnelle. » Le journaliste avait été impressionné, trouvant cela d'une formule bêtasse, mais classe. Au fil des ans, Fabrice avait écrit une douzaine de livres. Il lui ressemblait, sympathique filouterie d'un journaliste se prenant pour un linguiste, puis pour un historien. il peuplait ses ouvrages d'anacolutes, d'antonomas et de zeugmas. Il confondait étymologie et sémantique. Du sens des mots, de leur origine et de leur formation, il avait fait son fonds de commerce, sans diplôme ni légitimité. Ensuite, lui qui n'avait pas achevé la deuxième année d'une licence d'histoire, certes, c'était à Nanterre en 1968, il commit plusieurs livres sur des pages que l'on enseigne à l'école. Certains furent même inscrits au programme scolaire. Sa hâblerie fut à son comble quand il fut invité par celui qui s'était rendu célèbre avec une émission littéraire, s'achevant sur le questionnaire de Proust, avant de rajeunir la dictée au point d'en faire un rendez-vous culturel et ludique à la télévision. Fabrice y fit merveille, car il avait le goût de raconter, il savait convaincre de la richesse de ses découvertes, de son cheminement ludique et enchanteur entamé sur les mots. Mais, pour être sûr de marquer les esprits, il avait compté non sur ses talents, mais sur la veste jaune moutarde qu'il avait achetée la veille et arborait fièrement au milieu des invités beaucoup plus ternes. Il développait le complexe du journaliste de l'audiovisuel qui sait très bien que seul l'écrit grandit. Il éprouvait le besoin de s'affirmer par des livres auprès des siens pour lesquels il serait à jamais l'enfant géniant. Dans les récits familiaux, tant d'histoires s'achevaient sur et Fabou pleurait. À 30 ans, Fabrice cessa de consacrer du temps à la littérature. Féru des pages 4 de couverture, il lisait plus d'articles sur les livres qu'il n'en ouvrait, étant passé maître dans le survol, la lecture transversale et le feuilletage. Il se tenait informé grâce aux bonnes feuilles que les journaux publiaient. Comme il avait en mémoire les poètes de la Renaissance, le théâtre classique, Balzac, Flaubert et Zola, les surréalistes et les existentialistes, le nouveau roman était la barrière en deçà de laquelle il s'était arrêté. Ses passions étaient banales. Il vénérait Molière et adulait Hugo. La vie avait voulu qu'il unît la sienne à la poésie. À son plus jeune âge, il avait été béni par ses dieux, car nouveau-né, il avait sautement mangé de la mort au rat dans l'appartement parisien situé au-dessus de l'imprimerie où travaillait son père. Or, deux poètes dont les œuvres y prenaient corps furent émus qu'un petit garçon atteint du typhus soit plongé dans le coma. C'est ainsi que l'auteur de « Feuillet d'hypnose » et celui du « Parti pris des choses » avaient été les deux fées penchées sur son berceau d'enfant mourant d'un mal que l'hôpital n'avait su identifier. Les erreurs des médecins sont innombrables, la médecine n'est pas une science exacte. Fabrice les fréquenta dès lors comme des oncles affectueux que l'on voit de loin en loin.